J'ai 20 ans, j'habite à Nantes. Je suis étudiante en physiologie végétale. Depuis un peu plus d'un an maintenant, j'ai des problèmes au niveau de mon alimentation, du comportement alimentaire. J'ai fait de l'anorexie, puis maintenant c'est l'inverse, limite. C'est quelque chose qui est assez courant quand on passe du trop peu, après c'est du trop. J'ai perdu cet équilibre-là. Je suis assez timide et j'ai une trop grande capacité de travail. Je me suis un petit peu perdue là-dedans. Je voulais faire des concours en agronomie l'année dernière et puis j'avais tout abandonné.
Il se peut d'ailleurs que cette idée de boulimie soit vraiment un problème, une sorte de névrose de nos sociétés contemporaines.
Je fais la différence dans le cours de l'histoire entre un appétit que Jeanne a au début, elle mange trop, mais elle mange d'une manière qui est au fond relativement saine parce qu'elle mange, parce qu'elle aime manger, parce qu'elle aime la vie, elle mange avec bonne humeur. Donc c'est pas vraiment la boulimie. Et au cours du livre, elle se trouve confrontée avec une de ses élèves, elle est professeure, et elle a une dispute très très violente avec cette élève. Et au cours de cette dispute, au fond, elle se rend compte qu'elle n'a pas assumé complètement sa féminité. Et ça cause en elle un bouleversement, vous voyez. Elle se rend compte qu'il y a un manque dans sa vie, qu'elle n'a pas voulu souffrir, qu'elle n'a pas voulu aimer. Et tout à coup, elle rentre chez elle avec cette découverte bouleversante, cette angoisse, et elle se jette sur la nourriture. Et c'est complètement différent. Car elle n'y prend aucun plaisir. Elle mange n'importe quoi. Alors que normalement, elle s'y connaît. Elle mange avec appétit, elle mange en choisissant. Là, elle ne choisit pas. Elle mange pour compenser son angoisse. Et là, c'est vraiment une crise de boulimie. C'est-à-dire que la nourriture est là en remplacement d'autres choses.
Je ne pratiquais plus de sport, je faisais du patin à glace, je faisais un petit peu de danse, et puis j'ai arrêté tout ça. Et en été 89, moi j'aime beaucoup l'anglais et je suis partie au Père. Et là-bas, ça s'est très très mal passé. Ils étaient odieux et puis la famille n'était pas du tout simple.
Souvent, c'est à la faveur d'un régime qu'on déclenche des crises de boulimie alors qu'elles n'existaient pas avant.
Et puis, je suis quand même restée parce que je ne connaissais pas la région. Je connaissais l'Angleterre, mais je ne connaissais pas cette région-là. Et il y avait d'autres Français, donc je suis restée un petit peu. Et puis, quand je suis revenue, n'ayant pas eu vraiment trop ce qu'il fallait à manger, ce qui convenait, la nourriture anglaise n'est pas terrible.
Bon, je crois que c'est un peu... Tous les Américains, ils se jettent sur la nourriture. Non, mais c'est vrai que quand on arrête la drogue, il faut compenser. Alors, on a besoin de sucre, enfin, l'héroïne, on a besoin de sucre. Donc, on bouffe des bonbons toute la journée, des barres de chocolat, etc.
Et là, c'est devenu vraiment un cycle infernal. J'étais complètement dedans, sans arrêt. Et c'est vrai que il fallait vraiment faire quelque chose, là. C'était crise, vomissement, puis recrise, puis revomissement. Et plus que ça, donc les études, il n'en était plus question, c'était plus possible. Il n'y avait plus que ça.
Et donc, avec ça, je ne sortais plus, je me dégoûtais vraiment. Et donc, j'avais donc ces concours en vue et donc une année difficile devant moi, plus ça. Alors, j'ai voulu commencer un régime et ça a été trop loin. Et bon, je travaillais tout le temps.
L'anorexie mentale, on connaît depuis le 19e siècle. Ça a été identifié au 19e siècle par la SEG en France et par Gueule en Angleterre. Maintenant, les historiens nous ont montré qu'il y a de fortes chances que certains phénomènes qu'on n'identifiait pas comme des maladies dans le passé correspondraient quand même à ce que nous appellerions aujourd'hui l'anorexie mentale. Par exemple, Sainte Catherine de Sienne au XIVe siècle était décrite par son confesseur et le tableau est, paraît-il, un tableau clinique presque parfait d'anorexie mentale. Bon. Mais à côté de cette maladie déjà bien connue, il y a de nouvelles maladies, notamment la boulimie qu'on a identifiée ou qu'on a isolée depuis la fin des années 70.
Et puis le restaurant universitaire était vraiment pas bon du tout, donc je rentrais le soir assez tard parce que j'avais des cours toute la journée. Et puis je suis chez mes parents, sont chercheurs dans la même fac. Et je sais que j'avais mangé, et puis je montais travailler.
Les premiers cas, on s'en est aperçu après, ont été décrits avant. Mais enfin, et cette nouvelle pathologie qui consiste essentiellement à alterner des régimes absolument drastiques avec des phases, des épisodes où on mange des quantités extraordinaires de nourriture sans contrôle, quitte à se faire vomir ensuite. Donc cette maladie concerne majoritairement les femmes.
Et les concours, je les ai pas passés, alors que c'était un peu mon but, ce que je rêvais. Et je suis donc devenue très fatiguée, n'ayant plus les forces qu'il fallait.
La boulimie, c'est un mot immédiatement saisissable.
Il existe de nouvelles pathologies ou des pathologies alimentaires qui semblent avoir connu un développement récent, comme la boulimie. Et la boulimie, on peut peut-être la mettre en relation avec, d'un côté, cette crise des règles et des normes des comportements alimentaires, si vous voulez, cette autonomie qui est quelquefois mal vécue par les mangeurs,
c'est
d'un côté.
Étude.
Absolument. Et de l'autre, ce modèle très difficile à atteindre de la minceur. C'est-à-dire que vous avez un modèle, d'un côté, physique, esthétique, mais avec des tas de connotations morales. Et puis, vous avez à côté absolument aucune indication sur la manière d'y arriver.
Il s'est trouvé que j'ai lu quelques livres sur des sujets cliniques, notamment ceux de la boulimie et de l'anorexie mentale, et j'ai été choqué par la façon dont des êtres qu'on appelle patients y étaient traités. Il ne s'agissait que pour des psychiatres, des psychanalystes, des psychothérapeutes, que de cas, sèchement, sommairement analysés, exploités même, il faut dire. Comme si le médecin était à la recherche, et c'est vrai, d'une matière romanesque. Jean-Trey Molière, nutritionniste, parlait d'ailleurs du roman du boulimique.
J'ai préféré consacrer les forces qui me restaient pour réussir mon DUG, ma deuxième année d'avoir mon DUG B. Et je ne l'ai pas eu en juin, mais je l'ai eu en septembre.
Et donc une sorte de bricolage individuel, anomique, comme on dirait en jargon sociologique, c'est-à-dire précisément l'anomie, c'est l'absence de normes, de règles. Et dans cette cacophonie et cette anomie, il y a peut-être une des réponses, une des conséquences qui est cette pathologie du comportement alimentaire.
Et puis mes parents pensaient que, comme c'était une année très difficile, ils pensaient qu'après les examens, ça s'arrangerait, que je retrouverais l'appétit, parce que on ne comprend pas ces maladies-là trop, on ne les comprend pas, on voit quelqu'un qui s'affaiblit comme ça, mais...
Il y a de toute façon deux phases, c'est-à-dire qu'il y a une phase, je dirais, de boulimie et une phase de contrôle. Et c'est vrai qu'il y a souvent un contrôle extrême qui tendrait presque vers l'anorexie et une phase de complètement de laisser aller. Et il faut essayer de se situer entre les deux. Mais les deux états, je dirais, se voisinent perpétuellement. On oscille souvent entre les deux états, ce qui n'est pas facile à vivre.
Un coup de cafard, j'ai que des idées noires. Et moins ça s'arrange, et plus je mange. À chaque fois que tu pars, je vis sous les placards. Toutes les provisions, c'est l'obsession. Me faire un plateau. Passer du froid au chaud et manger non-stop comme une idiote.
Son estomac ne lui laissait aucun repos avant qu'elle l'eût vomi. Or, ses vomissements lui étaient si pénibles que tout son visage enflait. En pareil cas, elle se retirait à l'écart avec une de ses amies et se chatouillait la gorge, soit avec une tige de fenouil, soit avec une plume d'oie, jusqu'à ce qu'elle fût débarrassée de ce qu'elle venait d'avaler. C'est ce qu'elle appelait « faire justice ». « Allons faire le procès de cette misérable pécheresse », avait-elle coutume de dire. Cette misérable pécheresse n'était autre que Catherine de Sienne, docteur de l'Église.
J'ai 1m65 et donc je faisais avant, dans les 54-55, un petit peu plus. Bon, c'était bien, mais quand je suis revenue en Angleterre, moi j'avais pris beaucoup de poids et je me retrouvais toujours comme ça dans moi. Ça, c'était une image qui était restée, quelque chose que je voulais effacer. Et j'avais toujours peur qu'en mangeant, je redeviendrais comme ça.
Être boulimique, ce n'est pas simplement manger plus que nature ou manger beaucoup. C'est manger de façon compulsive, sans pouvoir s'arrêter, généralement quand on est seul, et un peu n'importe quoi, n'importe comment. Alors, il ne faut pas confondre avec, par exemple, les gros mangeurs qui aiment les bons restaurants, qui font des bons repas, qui sont d'ailleurs souvent avec une surcharge pondérale dont ils s'accommodent assez bien. Il ne faut pas non plus confondre avec l'anorexie ou avec l'obésité d'abord. C'est important parce qu'il faut savoir que les boulimiques souvent sont minces.
J'avais vraiment une allure d'anorexique et puis j'avais ces fameuses crises de boulimie qui sont épuisantes aussi. Mais vraiment, ça pompe une énergie folle. Et il y a non seulement ça, mais il y a aussi dessus d'autres choses qui se greffent, comme les mensonges en permanence, le vol de nourriture, et sans arrêt avoir peur d'être découverte, parce qu'on prend de la nourriture, on pique de la nourriture partout, ou dans le frigidaire, et après on vient vous demander, mais alors, où est-ce, enfin, ou c'est encore toi qui l'as mangé, et oui, et on est confronté à ça. Et...
Parce que certaines, ou bien après avoir eu ces crises de boulimie, font des périodes de jeûne où elles ne mangent pas du tout. Et puis il y en a surtout beaucoup qui se font vomir, ce qui est beaucoup plus ennuyeux pour la santé.
Et l'estime de soi dans ces moments-là, c'est terrible, quoi. Ça descend en flèche et il y a la honte très très forte qui est là aussi tout le temps. La honte, la culpabilité... Et ça, c'est vraiment dur.
Parce qu'il y a aussi un problème économique, parce que avaler tant de calories en si peu de temps, c'est très cher, ça peut être très cher. Et il y a des filles qui n'ont pas les moyens de s'offrir une boulimie aux choses sucrées et au chocolat, bien qu'elles l'aimeraient. Mmh. Et nous avons eu un cas où la jeune fille avait trouvé moyen de se fournir en collectivité de grandes boîtes de purée en flocons. Et quand ces crises la prenaient, comme elle disait, elle sautait dans l'évier, elle n'avait plus qu'à touiller la purée en flocons avec de l'eau et en avaler des quantités à peu près pour une famille de 8 à 10 personnes.
Mais c'est de telles quantités que forcément il y a cette culpabilité énorme qui est là. C'est pas seulement prendre un paquet de gâteaux, c'est vraiment piller.
D'un seul coup, par ennui et tout ça, parce qu'en licence, on n'a pas beaucoup d'heures, une heure le matin, une heure le soir, donc je rentre chez moi, j'habite tout près de la fac, et je me suis mise un jour à engloutir plein de choses, comme ça. Et j'ai pas compris, et puis bon, c'est passé une fois, c'est passé la semaine d'après, et au fur et à mesure, le rythme des crises est devenu de plus en plus fréquent. Et maintenant, c'est devenu quotidien.
J'ai une boulimie de tournée. Il y a des gens qui ont des boulimies de bouffée. Moi, j'ai une boulimie de tournée parce que la vie est courte. Et finalement, tant qu'on est solide, qu'on a encore tous ses esprits, je crois qu'il faut tourner. Après, on devient gâteux. Il y a tellement de metteurs en scène gâteux quand même.
Boulimie, qu'on a une image de Mozart un peu tordue par les films. Qui sait comment il était, qui sait comment il travaillait. Il composait pour ses copains, il composait sur commande, il composait ce qu'il avait envie de composer, mais il n'arrêtait pas, ça c'est certain. Si c'est ça la boulimie, c'est peut-être la boulimie.
Mais je crois qu'on mange pour essayer de retrouver, de prendre une identité au dehors qui nous échappe à l'intérieur.
C'est intéressant de voir par où ça passe. Tout à l'heure, par exemple, nous parlions du plus que vous voulez apporter dans ce livre. Et le plus passe, on peut dire, par exemple, par la forme. Quand on parle de sexualité à propos de la boulimie, on peut dire ça passe par la bouche. Les aliments passent par la bouche, mais les mots aussi.
On a parlé de boulimie toxicomanie sans drogue. Et effectivement, l'aliment est quelque chose qui est consommé de façon excessive, dont on ne peut pas se dispenser, auquel on ne peut pas mettre de limite. Et chez les boulimiques, on décrit par ailleurs beaucoup de conduites quasi toxicomaniaques, avec abus de médicaments, consommation d'alcool parfois, abus de drogue douce aussi, et gestes impulsifs, tentatives de suicide, etc.
Ah, il y avait un livre de Béraud qui s'appelait comme ça, Le martyr de l'obèse. Non, pourquoi ? Le mot martyr laisse entendre qu'il y a là une sainteté. Ne déplaçons pas, là, justement, les réalités vécues et les mots. Non, rien à voir avec le religieux. D'ailleurs, je crois que nous ne savons pas très bien ce que c'est que le religieux. Martyr. Pour ne pas parler de souffrance.
Elles passent leur journée à penser à l'alimentation, qu'elles ont faim. C'est effectivement une dépendance.
La souffrance, c'est le vertige de ne pas être pour soi, dans la relation. C'est ne pas pouvoir marcher vers un horizon. Un horizon qui peut être un horizon innommé, mais qui est un espoir. C'est être absolument en soi, raréfié, obsédé par soi, mais un soi qui serait sans être. Car l'être, lui, est toujours en chemin.
Eh bien, en principe, on pense qu'il y a environ 100 000 boulimiques en France. Mmh. Mais naturellement, ce chiffre n'est pas... Étant donné que les boulimiques se cachent, ça n'est pas absolument... C'est approximatif. Mais je crois que madame peut dire, par contre, le chiffre en Amérique.
Aux États-Unis, ça a révélé l'apparence d'une véritable épidémie. Et ils disent avoir à peu près 5 millions de boulimiques.
On a à notre disposition les psychothérapies s'attaquant aux comportements, aux symptômes, soit les médicaments, les anxiolytiques contre l'angoisse et les antidépresseurs. Et puis maintenant, de nouveaux médicaments qui auraient un effet sur la sélection des aliments. Alors ce ne sont surtout pas des coupe-faim, c'est-à-dire ni amphétamines ni extraits thyroïdiens, mais des médicaments qui, par exemple, diminueraient l'appétit pour les sucres, ce qu'elles ont souvent, mais pas toutes, sans modifier le reste de l'alimentation.
Il faut faire la distinction entre la boulimie, l'obésité, l'anorexie et les gros mangeurs.
Si tu reviens pas demain, je réponds de rien. Me faire un plateau, passer du froid au chaud. J'ai mangé non-stop comme une idiote. J'ai eu un coup de foudre, coup de foudre. La chambre à la cuisine. J'ai eu un coup de foudre, coup de foudre. Du pain à la terrine. J'ai eu un coup de foudre, coup de foudre.
Je lis systématiquement tous les journaux. Je suis un boulimique de presse. J'ai tous les journaux français et étrangers à 6h30 du matin chez moi. Et je dois dire que... À part le service de contre-espionnage français, je ne vois pas qui peut lire autant de journaux que moi.
C'est la boulimie absolument effarante de Miller sur le plan culturel. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, depuis sa tendre enfance, enfin, a tout lu. Mais il était comme les bons esprits, c'est-à-dire il préférait, il portait beaucoup d'attention aux livres que les autres ne lisent pas. Alors il y a des constantes, par exemple, pour les sciences occultes. C'est beaucoup passionné pour l'astrologie. Puis il lisait des livres traduits du chinois, tout ce qu'il pouvait trouver. Puis il lisait les classiques de l'occultisme. Ça le fascinait. Mais il lisait aussi, il portait beaucoup d'attention, par exemple, au Salavin de Georges Duhamel. Alors c'était une curiosité comme ça, mais en même temps, il pouvait se priver de tout, se passer de tout. Si vous voulez. Il n'avait pas besoin, il avait tout lu, mais il n'avait pas besoin de bibliothèque.
J'ai rencontré surtout des femmes, et ça c'est peut-être un biais dû à la consultation à l'hôpital. Donc, de façon spontanée, j'en parlerai au féminin. Il peut y avoir des boulimiques chez qui ça déclenchera, ça, pour autant que ça évoque des souvenirs ou des mots comme ça familiers, mais ce n'est pas particulièrement ça qui déclenche une crise de boulimie de façon générale. Ce n'est pas forcément du tout la vue de la nourriture. C'est une espèce de pensée sur la nourriture, mais qui est prise d'abord dans l'angoisse. L'angoisse qui monte, contre laquelle on résiste, et ça peut durer longtemps. Et puis ensuite, au moment où on cède, ça va être une crise. Et à ce moment-là, on va chercher de la nourriture, même s'il n'y en a pas du tout dans les environs, et même s'il n'y en a pas sous la main. Cela dit, une boulimique peut regarder de la nourriture, peut regarder manger des gens, sans que ce soit particulièrement son problème à ce moment-là.
La boulimie est une activité clandestine. Les boulimiques ne disent pas qu'ils le sont. Donc nous les voyons pour d'autres circonstances, parce que la boulimie induit des troubles médicaux.
Ça va se passer soit en quittant les autres pour aller manger, soit à un moment où on est effectivement seul, et pendant des heures, il va y avoir la montée de l'angoisse.
Elles viennent souvent consulter parce qu'elles ont des reflux gastro-œsophagiens, c'est-à-dire que quand elles se baissent pour s'arracher un soulier, elles ont un petit peu de liquide gastrique qui remonte, elles ont des brûlures œsophagiennes, elles ont des problèmes dentaires, et surtout, elles viennent voir le nutritionniste pour se renseigner sur l'alimentation équilibrée. Donc vous voyez une personne qui, comme on vous l'a dit, est tout à fait normale au point de vue poids et qui vient dire qu'est-ce que je dois manger, comment doit être une alimentation équilibrée, parce qu'elles veulent se renseigner, parce qu'elles culpabilisent.
On ne peut pas appeler ça de la faim, et elles-mêmes n'en parlent pas comme de la faim la plupart du temps. C'est un malaise, c'est des sensations, c'est rarement de la faim parce que la plupart du temps, il y a eu un repas, il y a eu de la nourriture mangée il y a peu de temps. Enfin, c'est quelque chose qui intervient d'ailleurs en dehors des heures habituelles de repas, très souvent. Et pas du tout de façon prévisible et dans un cycle qui serait celui de la faim et de la satiété, dans la mesure où il n'y a pas de satiété non plus.
Il a été dit que statistiquement, il y avait 18 femmes pour un homme. qui soient boulimiques. Sauf pour les très jeunes adolescents, où en Amérique, on parle d'un sex ratio de 1 sur 3.
Une boulimie d'action à la limite du risque déraisonnable.
Nous avons tellement été imprégnés par cette soif et cette boulimie de vivre que c'était le seul endroit où on a pu puiser l'essence de la vie. Parce qu'on a été un peu partout, comme on avait un peu voyagé, on a été un peu partout où on a été. On n'a pas trouvé un foyer qui pouvait nous donner autant de sujets et autant d'énergie que Paris.
Oui. C'est souvent une manière de soulager l'angoisse, et cette montée de l'angoisse, c'est un des éléments déterminants, je crois, dans cette crise boulimique.
Non, une bonne marrante, non, je ne suis pas une bonne marrante, faut pas... C'est ça, ça m'énerve. Envers les gros, c'est ce qu'on a tendance à croire. On est gros, bon, allez, on va vous inviter parce que vous êtes gros, parce que vous êtes la bonne marrante, parce que si, parce que ça. Non. Puis déjà, chez les gros, chez une personne forte, faut que je le précise, ce truc-là, parce que ça m'a tout le temps gênée. On est obligé de faire des efforts pour se faire accepter. On est obligé de donner plus de soi. C'est vrai, plus. À tous les niveaux, on est obligé de... Si on raconte une blague, on est obligé de la souligner, sa blague, pour qu'on nous voit, pour qu'on attache l'importance sur nous, puisqu'on ne peut pas l'attacher physiquement, donc il faut qu'on l'attache autrement.
Le test de l'arbre a révélé également ce besoin d'importance chez les boulimiques. Et puis alors, il y a le test de Zondi, qui a montré aussi qu'elles avaient l'impulsivité. Chez les boulimiques, il y a une grande difficulté elles ont besoin d'une satisfaction immédiate, voyez-vous. Elles ont du mal à différer leur plaisir. Alors, ça peut être sur un plan sexuel, mais c'est généralement sur un plan alimentaire. Oui. Quand elles ont une angoisse, elles mangent.
Oui.
Elles mangent sans s'arrêter, n'importe quoi.
J'ai toujours recherché... J'ai toujours voulu plaire aux autres, plaire, avoir l'adhésion des autres, rentrer en fusion avec eux, qu'ils soient dans mon monde. Comme je suis grosse maintenant, mais je suis grosse depuis 20 ans, enfin depuis 20 ans, pas depuis l'âge de 20 ans, mais depuis 20 ans. Donc comme quand on est gros, on n'est pas forcément beau. On n'est pas forcément dans les archétypes, donc pour plaire, on fait rire. On fait rire, donc on lance des petites phrases, et quand on fait rire quelqu'un, on lui a plu.
On leur demande de raconter leurs rêves, et j'essaie de les aider à associer sur leurs rêves pour connaître leurs vrais désirs. Quelquefois, elles rêvent de nourriture, mais finalement, ce sont plutôt les anorexiques que j'ai eues en thérapie qui rêvaient de nourriture parce qu'elles ne mangeaient pas du tout. Les boulimiques rêvent plutôt avec des problèmes liés à leur enfance, des relations avec leurs parents, qui sont souvent très mauvaises.
Ils ont peur de leur reflet dans le miroir. Ils ont peur de se voir. Ils ont peur de tout ce qu'on peut penser. Des gros, puisque les gros ont, une mauvaise image de marque. Un gros, ça sent fort, ça sue, c'est sale. Donc, je dirais qu'un gros qui veut contourner cette image fait des efforts insurmontables pour pallier ses a priori.
Je pense que ce sont des troubles qui remontent très, très loin, à la première enfance. Alors, ce sont les examens de personnalité que nous avons menés à l'hôpital Saint-Michel avec différents tests de personnalité, à savoir le test de Rorschach, le test de Zondi, le test de l'arbre. Et également, nous avions leur biographie et des entretiens qui nous racontaient un peu leur vie.
L'anorexie, c'est une tentative ultime, désespérée pour s'affirmer. Et la boulimie, qu'est-ce que ça va être? Ça va être au contraire le retour en masse du désir de manger, avec les humiliations et la difficulté, la crucifixion que représente pour la boulimique le fait de manger et de vomir compulsivement pendant des heures quotidiennement.
Depuis quelques années, j'ai aussi une folie de la propreté. Propreté assez relative, c'est-à-dire que je ne supporte pas les vêtements sales. Donc je lave à tour de bras. Et je crois aussi que c'est aussi pour me laver des hommes que j'ai connus quand j'étais plus jeune, parce que je considère qu'ils m'ont un peu souillée. Donc je me lave un peu pour le passé, je lave le passé. Donc je fais tourner ma machine. J'ai l'impression qu'en faisant tourner ma machine à laver, je me nettoie.
Il ne faut pas séparer boulimie et anorexie. Elles forment toutes les deux un système d'alternance et que la boulimie, d'ailleurs, est une succession de crises qui alternent avec, justement, une inappétence.
Et alors le Rorschach, par contre, qui est un test qui explore les couches profondes de l'inconscient, montre que les boulimiques ont d'abord une mauvaise image d'elles-mêmes, elles ne s'aiment pas, et puis elles ont des relations parentales qui ont été très perturbées. Généralement, avec un père ou violent, alcoolique ou hyper directif, des mauvaises relations également avec la mère. Des mères qui sont froides ou distantes, et une sexualité qui n'est pas épanouie. Quelquefois, elles ont des relations sexuelles épisodiques, rapides, mais qui ne les gratifient pas. Par contre, le Rorschach a montré, et ça je crois que c'est très important de le dire, qu'elles ne sont pas coupées du réel, ce qui prouve qu'elles ne sont pas psychotiques, qu'elles ne sont pas folles au sens propre, elles sont des personnes sensées, mais qui ont simplement ces compulsions auxquelles elles ne peuvent pas résister quand elles ont des moments d'angoisse et d'anxiété.
Ils avaient une image d'homme-père, enfin d'homme, ils étaient un peu paternels, ils étaient plus vieux que moi. Il y avait parfois 10-15 ans de différence entre nous, et il me protégeait parce que j'avais un père absent. Ce père est toujours absent, mais un peu moins quand même. Maintenant que je suis partie de la maison, il est plus présent qu'avant.
Nous faisons dessiner des arbres successivement. Oui. C'est un test qui a été inventé par un psychologue qui s'appelle Corr et qui a été mis surtout étudié en France par Mlle Stora, où on fait dessiner des arbres. Parce que le test de l'arbre révèle plus l'inconscient que l'écriture. Parce que l'écriture, c'est malgré tout un modèle enseigné. On apprend à écrire, tandis qu'on n'apprend pas à dessiner des arbres.
Parce que la féminité, par exemple, est dévalorisée dans son monde de représentation, peut-être en raison de dépression maternelle, de la propre dévalorisation par la mère de son image, qui a transmis comme ça quelque chose d'un peu dévalorisé à la fille. Toute une série comme ça de facteurs peuvent jouer, mais qui ont comme résultat de donner à ces adolescentes un sentiment de ne pas avoir en elles ce qu'il faut. Et donc, si elles n'ont pas ce qu'il faut, bien elles doivent se nourrir de l'apport des autres.
Je crois que dans l'anorexie, il y a d'abord, il y a certainement une très grande agressivité envers la ou les personnes qui ont donné les premiers aliments. Il y a une espèce de chantage dans l'anorexie. Une espèce de refus de la nourriture pour faire chier quelque part.
Je pense que en fait, les pourcentages, on ne les connaît pas très bien. Hein, et que il y a certainement plus d'hommes que l'on ne pense, mais qu'ils le vivent mieux. Parce que les femmes sont très préoccupées de leur ligne, de leur silhouette, étant donné les magazines, les mannequins qui sont toujours assez filiformes, auxquels elles veulent ressembler.
Ce qui rend l'acte boulimique incompréhensif, c'est qu'il n'est même pas déterminé par le plaisir. Les boulimiques n'éprouvent aucun plaisir à manger. Ils ne savent même pas ce qu'ils ont mangé.
C'est un peu compliqué parce qu'il y a des anorexiques qui passent par des crises de boulimie et des périodes de boulimie, et inversement. Mais il y a des boulimiques qui n'ont jamais été anorexiques. C'est beaucoup moins grave quand elles ne sont que boulimiques, parce qu'on n'est pas confronté à l'instinct de mort et à savoir qu'elles arrivent à des poids tellement minimum qu'elles risquent d'en mourir.
Oui.
Tandis que généralement, la boulimique n'est pas du tout désocialisée et n'est pas coupée du réel. Et elle est simplement dépressive.
Et s'il y avait du plaisir, il n'y aurait ni anorexie ni boulimie. C'est bien parce qu'il n'y a pas plaisir qu'il y a ces manifestations pathologiques. Et on peut le voir, par exemple, dans le cas des boulimiques, qui mangent effectivement n'importe quoi de manière compulsive, certaines allant même jusqu'à manger du papier.
C'est vrai que moi, dans mon cas, je ne suis plus boulimique depuis déjà 5 ans, mais il m'a fallu quand même 5 ans avant de commencer le régime. J'avais donc, à la suite de tout ça, pris du poids, et je n'ai pu faire le régime que cet été. Enfin, je n'ai pu le faire efficacement que cet été, quoi.
Et je pense que c'est utile de le signaler aux jeunes mères qui, souvent, sont des mères un peu anxieuses, perfectionnistes, qui voient leur bébé pleurer et qui, immédiatement, leur donnent le biberon ou le sein si elles les nourrissent. Et un enfant, Madame Dolto l'a bien dit, a simplement, souvent, simplement besoin d'être pris dans les bras, qu'on lui parle. Et de manière à ne pas créer un réflexe conditionné, anxiété et rassuré. On est rassuré par la nourriture.